Calade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présenté par Sylvie Rosier.
Après les agriculteurs en colère cette semaine, les taxis qui bloquent Lyon ce 29 janvier, c'est au tour des routiers de manifester. Les routiers annoncent un gros blocage à l'entrée de Lyon, le parc d'activité des Chênes, la grande zone logistique de Saint-Quentin-Fallavier en Isère, à l'est de Lyon, le 5 février, selon le collectif Groupement des routiers français, GRF. Ils dénoncent, et je cite, « face à l'inflation et l'augmentation des charges, la conséquence est un grand nombre de défaillances d'entreprises et des pertes de salaire. Fin 2023 et l'année 2024 s'annoncent catastrophiques pour les salariés. Le GRF demandait notamment au ministre des Transports de baisser les charges sociales pour redonner les deux tiers aux salariés. Pêcheurs, routiers, taxis, ces professions qui se joignent donc à la colère des agriculteurs. Alors que la mobilisation des agriculteurs continue, les taxis organisent également une nouvelle journée de manifestation. La circulation s'annonce donc difficile pour les automobilistes. La FNSEA et les jeunes agriculteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes ont annoncé mettre en place une tenaille lyonnaise avec des ramifications partout dans la région. Ils estiment que les annonces du Premier ministre ne sont pas à la hauteur. Deux lieux de blocage sont organisés. Départ donc ce matin à 5h30 à Charbanières, les arboriculteurs et les viticulteurs maraîchers de la FDSEA et les jeunes agriculteurs 69 sont mobilisés, organisent une opération escargot. Deuxième point de blocage à partir de 17h au péage de Villefranche-sur-Saône-Sud, organisé avec le département de l'Ain pour une durée indéterminée. Pour rappel, la FDSEA et JA69 ne cautionnent pas les dégradations déversement sur la voie publique et les agriculteurs attendent un discours et des actes concrets depuis le plus haut niveau de l'État. Ils préviennent, cette semaine de mobilisation n'est qu'une étape.
Calade.
Ma radio.
L'info locale et régionale.
La journée mondiale des zones humides est célébrée chaque année le 2 février. Des animations sont proposées par tous les acteurs en faveur des espaces naturels destinés à sensibiliser à l'importance de la préservation des milieux humides. Le Conservatoire d'espaces naturels Seine-Rhône-Alpes vous invite à découvrir le marais de Boitrais lors d'une balade à Saint-Georges-de-Renens. Nous sommes accompagnés de Chloé Matelet du Seine, antenne de l'Ain. Petite présentation du Conservatoire d'espaces naturels tout d'abord.
Le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes, c'est une association de préservation de l'environnement et de gestion des milieux naturels à enjeux forts. Cette association, elle est présente sur 5 départements donc en région Rhône-Alpes, qui sont l'Ardèche, Drôme, la Loire, le Rhône et l'Ain. Nous menons des actions concrètes depuis plus de 30 ans maintenant pour préserver les milieux naturels et les valoriser auprès du grand public.
Les raisons et objectifs de la Journée mondiale des zones humides.
La Journée mondiale des zones humides, c'est une commémoration de la signature de la Convention Ramsar qui a eu lieu le 2 février 1971 et de nombreuses structures tels que les conservatoires d'espaces naturels proposent des animations sur le thème des zones humides pour ce jour-là. Et cette année, l'événement se déroule le 2 février 2024. Les zones humides, ça regroupe tout ce qui est marais, mares, étangs et lacs. C'est des zones qui sont très importantes pour plusieurs raisons. D'abord, elles ont un effet éponge, c'est-à-dire qu'elles sont capables d'absorber l'eau en grande quantité quand il y a des périodes de fortes pluies et de la restituer en période de sécheresse. Donc c'est un élément qui est indispensable, surtout par rapport au changement climatique qui arrive et aux sécheresses qu'on connaît de plus en plus nombreuses et de plus en plus sévères. Également, les zones humides, elles ont un rôle de filtration de l'eau. Les plantes telles que les roseaux ou les joncs ont la capacité de filtrer l'eau, donc font le rôle en fait d'une station d'épuration, mais de façon naturelle. Bien sûr, les zones humides, c'est aussi un refuge pour la biodiversité. On retrouve des espèces assez communes, mais certaines qui sont très rares et endémiques. Et c'est important de préserver ces zones humides pour préserver les habitats qui sont très nombreux et qui sont utiles à de nombreuses espèces. Et également, c'est un espace de loisirs. Les zones humides, on y fait de nombreuses activités nautiques. Et également, c'est un joli cadre pour les randonnées et les balades. Donc, important à préserver.
Mmh. Donc, vous parliez de stations d'épuration. Je m'arrête deux minutes. Aujourd'hui, dans les nouvelles stations d'épuration, on retrouve effectivement l'efficacité des roseaux.
Oui, alors les roseaux, ils ont la capacité de filtrer l'eau grâce à leurs racines et vont en fait permettre une filtration qui sera naturelle et rendre l'eau pure. Et effectivement, les stations d'épuration s'adaptent de plus en plus, qui s'adaptent en fait aux évolutions et à la société actuelle et le monde dans lequel on vit, fait que les changements climatiques et autres font que l'homme est obligé de s'adapter. Donc là, les roseaux font partie des adaptations techniques utilisées dans les stations d'épuration.
Les zones humides, des écosystèmes importants pour la biodiversité et les hommes.
Oui, les zones humides, on a remarqué depuis le début du XXe siècle une diminution de plus de 70% due à l'urbanisation ou à l'agriculture intensive. Et effectivement, ces zones-là, les 30% qui restent sont primordiales et indispensables. Donc les conservatoires d'espaces naturels font tout pour les préserver. Et ce sont souvent des sites qui sont classés de différentes façons pour augmenter le niveau de préservation.
Le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes au service de la gestion des milieux naturels.
Oui, tout à fait. Le conservatoire a aussi un rôle de valorisation et de sensibilisation auprès du public. Donc pour cela, on organise des animations nature avec les publics scolaires, mais aussi le grand public. Et c'est le cas le 2 février 2024, donc dans le cadre des Journées mondiales des zones humides, où le CEN va réaliser une animation nature au marais de Boitrais. Donc elle va consister en une balade ludique et sensorielle pour sensibiliser les publics à la biodiversité, aux zones humides, mais surtout faire connaître le site qui est classé comme espace naturel sensible et qui est l'un des derniers marais sur le territoire du Haut-Rhône.
Alors c'est ouvert à tous, mais c'est aussi aux personnes justement de proximité et de leur rappeler de la richesse effectivement de leur environnement hein, et de la préserver, c'est un peu ça l'idée.
Tout à fait. Le marais de Boitrais, c'est un espace de plus de 230 hectares autour de l'autoroute A89. Et on a 120 hectares de milieux humides, donc de marais et de milieux en eau. Et on y retrouve des espèces endémiques telles que les grenouilles agiles qui sont les... La plus grosse population du Rhône se trouve sur le marais de Boitrais. On a des espèces aussi de flore telles que la fritillaire pintade ou l'ail anguleux qui sont des espèces endémiques au site et qu'il faut préserver et faire connaître effectivement aux personnes habitant aux alentours du marais et leur faire prendre conscience de cette richesse et de ce patrimoine naturel exceptionnel.
J'ai presque envie de dire de leur réapprendre finalement parce que il y a déjà plusieurs années en arrière, effectivement, on avait ces notions qu'on a perdues.
Oui, il est vrai que certains ont besoin d'un rappel par rapport à cette biodiversité. C'est aussi pour ça qu'on sensibilise les enfants dans les écoles pour qu'ils puissent en discuter avec leurs parents et leur famille. Effectivement, les animations grand public sont aussi un moyen de sensibiliser le public et de faire redécouvrir le marais, mais d'une autre façon qu'une simple balade, et rentrer plus dans le détail de la biodiversité et de l'intérêt de ce site qui présente, comme je l'ai dit, de nombreux habitats utiles à de nombreuses espèces.
Du côté du marais de Boitrais, le vendredi 2 février, départ place de la mairie à 10h à Saint-Georges-de-Renens pour une balade en zone humide. Plus d'infos, cen-rhonealpes.fr. Les bottes de pluie sont de mise. Et la page sportive avec Eddy Bernard. La page sport donc que nous ouvrons du côté des stades. Que s'est-il passé donc pour ces équipes?
Eh bien Sylvie, le Gaulle Football Club avait une belle occasion de ressortir à nouveau de cette zone rouge. Ils sont à la lisière de celle-ci en championnat national 1 depuis l'automne. Et vendredi 26 janvier au stade Ludovic Juli, donc à Chasselet, un match en retard face à Dijon qui était cette belle opportunité. Bon, hélas, le scénario du match a été assez défavorable, réduit à 10 après une grosse demi-heure de jeu. Les Chasselois ont souffert et, hélas, ont été menés au score par deux fois. Ils n'ont pu que revenir à la marque et donc le score final. 2-1 est en faveur des Bourguignons, ce qui ne change rien, ceci dit, au classement du championnat à l'issue donc de ce match en retard qui comptait pour la 15e journée. Ils sont toujours 13e. En revanche, on a joué au rugby à un horaire inhabituel, non pas vendredi, mais samedi 27 janvier. Et on attendait impatiemment du côté du complexe de l'Escale d'Arnas les joueurs du Havre pour un match exceptionnellement prévu à 19h15 en raison du week-end des conscrits, hein, vous vous en doutez. Et les Havrais, compte tenu de l'actualité, ont eu toutes les peines du monde à rejoindre le stade, si bien que le match a commencé avec une trentaine de minutes de retard, des conditions pas idéales pour les visiteurs. Les Caladois en ont profité, 3 pénalités, un essai de pénalité derrière, ils étaient largement devant, mais juste avant la mi-temps, les Caladois se sont fait rejoindre et même dépassé, mais fort heureusement, Ferro marquait un essai salvateur en deuxième mi-temps à la 55e minute pour préserver une petite victoire 19-17, mais une victoire quand même contre le 5e du classement de Fédéral 1. Le CSV a maintenant une belle marge vis-à-vis des deux relégables en Fédéral 1, mais rien n'est joué et la lutte pour le maintien, on l'a compris, va être encore intense jusqu'au bout. En Fédéral 3, en revanche, ça c'était dimanche, ça a été la balade pour le RC Belleville à Jomarduri dans son stade face à Couche. Victoire nette et sans bavure, 46-20, une belle deuxième place donc au championnat pour les Bellevillois. Voilà pour les stades.
Sinon, bien au chaud dans les gymnases.
Alors, comme on pouvait hélas le craindre, le court déplacement du côté de Montbrison pour Beaujolais Basket a été évidemment compliqué parce que Montbrison, dixième du classement avant cette nouvelle journée de championnat national 2, n'est pas à sa place et a un potentiel qui lui permet de viser beaucoup plus haut. Au match aller, d'ailleurs, les Beaujolais ne l'avaient emporté que de 3 petits points. Mais effectivement, les Ligériens se sont fait respecter dans leur salle du Bruc, 81-70. C'est dans le deuxième quart-temps qu'ils ont étouffé nos Beaujolais en panne d'adresse. C'est ainsi. Alors, ce championnat national 2 de basket, il va être palpitant jusqu'au bout parce que, tenez-vous bien, vous avez 7 équipes, c'est-à-dire plus de la moitié quasiment de la poule, qui tantôt se retrouvent premier, ex aequo ou second. Enfin, ils sont tous au coude à coude depuis le début du championnat. Aucune hiérarchie n'est encore dessinée à l'heure où on se parle. Ça va être vraiment passionnant. Hein. Alors, en National 3, la Starar, elle réalise un bon coup à domicile à la salle Robert Maga, samedi 27, toujours, et une courte mais victoire probante devant Prissé Mâcon, 82-78. Et là, du coup, Tarar se relance, retrouve une sixième place un peu plus conforme à son statut. Enfin, nos deux équipes de volleyball jouaient dimanche. Pour les féminines de Villefranche, les Caladoises du VBVB, elles ramènent la victoire à l'arraché de Milly-la-Forêt. C'est au tie-break qu'elles se sont imposées. Septième au classement, ça va bien. Et puis les masculins, eux, en National 2, étaient sur la Côte d'Azur, à l'autre bout de la France, face au hier Pierrefeu Lalonde. Donc, et là, les garçons, eux, en revanche, en National 2, ont hélas été dominés, battus en 4 manches, mais ils sont toujours 6e du classement. Voilà ce qui s'est passé cette semaine.
Quels sont les prochains rendez-vous avec nos équipes locales pour le premier week-end de février ?
Alors, un programme pas extrêmement dense, mais quelques rendez-vous importants. En football national 1, on enchaîne, c'est la 19e journée. Dès ce vendredi 2 février, alors attention, au stade Armand Chouffet, match à 18h15, attention pour l'horaire, un peu inhabituel. À Armand Chouffet, donc, réception de Niort, c'est un gros défi pour les Tigres Caladois, bien entendu, du FCVB. Niort est 3e du classement, et on le sait, les Caladois, eux, ont toujours, évidemment, ces 3 matchs qui devront être à rejouer, donc il est difficile pour l'instant de les situer clairement dans la hiérarchie, mais il faudrait pourquoi pas réussir un coup contre les Chamois, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, même s'il n'y en a pas là-bas. Hein. Ça c'est une autre histoire. Et puis le Gol FC sera lui aussi à domicile encore une fois, à nouveau donc au Ludovic Julie. Gol FC face à Épinal, la lanterne rouge du National 1, victoire impérative. Ça c'est pour le foot. Après la parenthèse Euro, nos handballeurs masculins sont champions d'Europe et donc le championnat amateur lui peut reprendre donc, et retour du côté du championnat pour l'entente beaujolaise Villefranche-Lima, déplacement à Beaune, donc en Côte d'Or, samedi 3 février 20h30, c'est là 15e journée, les Beaujolais sont bien, ils ont leur meilleur classement depuis des lustres actuellement, donc pourquoi ne pas enfoncer le clou, mais c'est hélas chez le leader de la poule. Alors mission, voilà, grosse mission. Rapidement, les rendez-vous de basket pour terminer, samedi 3 à 20h. Beaujolais Basket affronte lui aussi le leader dans sa salle, Pays Salonnais, gros challenge. Tarare se déplace dans le Jura pour aller jouer à Montmoreau, toujours à 20h. Équipe qui sont qui est au coude à coude d'ailleurs avec les Tarariens. Et puis pour les deux équipes de volley, match à domicile dimanche, le 4 février à 14h, les féminines contre le VB Chalon-sur-Saône, qui sont quatrième au classement. Et pour les masculins, juste après, donc à 16h, à l'Escale d'Arnas, bien entendu, contre Monaco, rival direct au classement. Que des matchs hyper intéressants pour tout le monde.
Et c'est tant mieux.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.